Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Thomas Rozek. Quand j'avais 6 ans, j'ai très fortement surpris ma maîtresse de CP, Madame Cotin, en lui disant que j'avais décidé d'être objecteur de conscience lorsque viendrait le temps du service militaire. On était en 92, il existait encore, mais plus pour très longtemps. Et cette grande ambition enfantine, elle ne m'a pas servi. Cela dit, si j'appartiens à une génération pour la plupart très heureuse d'avoir échappé au service, ce ne sera pas forcément le cas de mes enfants, puisque comme tout le monde, j'ai découvert avec un mélange d'effroi et de consternation les premières images du SNU, le Service National Universel expérimenté en ce moment. Et même si le gouvernement dit et répète qu'il ne s'agit pas d'une remise au goût du jour de l'ancien service militaire, le décorum déployé à base d'uniformes, de vie en caserne et de salut au drapeau y fait quand même très fortement penser. Dès lors, plusieurs questions nous trottent dans la tête. Comment s'organise la résistance, si résistance il y a, au SNU? Quelles objections, et j'utilise le mot à dessein, soulèvent ses opposants? Et par ailleurs, d'où vient cette fascination persistante de la classe politique, à droite comme à gauche, pour un service militaire fantasmé comme un moment d'union républicaine à nul autre pareil? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, le 22 février dernier, je vous ai fait part de ma décision de professionnaliser l'ensemble de nos forces de défense.
Je le disais, ma génération n'a pas connu les joies du service. Elle en a en fait essentiellement forgé son image en écoutant les souvenirs des générations précédentes, celles de nos pères surtout. Alors avec Lorraine et Vincent qui fabriquent avec moi ce podcast tous les jours, on a passé un coup de fil à nos papas pour leur demander à tous ce qu'ils avaient gardé de ce passage forcé sous les drapeaux.
J'étais pas un militant objecteur de conscience et tout ça, c'était vraiment du... parce que ça me faisait suer. Déjà, j'aimais pas les ambiances de mecs, là, ça. Et puis ce côté militaire, là, plongé, j'étais dans l'armée de terre, là, à Laval, plongé par terre avec un fusil, ça m'intéressait pas du tout. Et j'avais qu'une envie, c'était de retrouver celle qui est devenue ta mère après. Et donc... J'ai fait le nécessaire, j'avais décidé que je ne parlerais à personne. Et puis à un moment donné, je me suis allongé dans la cour, après à midi, je ne sais pas quoi, là, et donc un officier m'est tombé dessus, c'était interni, et ça a fait toute la bêtise de l'armée. L'officier, il a tapé sur l'officier en dessous, qui a tapé, etc. Et puis, résultat, je me suis retrouvé, et on s'est occupé de mon corps, parce que... Et donc j'ai fait la navette entre Laval et Rennes pour aller voir des psychologues. Et moi, je m'étais fixé une limite, c'est que si j'étais interné, j'arrêterais peut-être, je ne voulais pas prendre de médicaments et tout ça. Là. Et bien, j'étais réformé, j'étais classé P5. Moi, j'étais assez fier de mon P5 quand même, parce que j'avais battu un collègue qui était P4. P5, c'est le niveau assez élevé dans la hiérarchie des problèmes psychologiques. Ça n'a pas toujours été que moi, j'étais réformé. Toc, j'ai retrouvé ta mère, on a commencé à vivre ensemble en octobre. Et ça fait 42 ans que ça dure.
C'était l'hiver. Un hiver particulièrement froid cette année-là, il faisait moins 15, moins 20, c'était dans l'est de la France, hein. donc on est parti en manœuvre et pendant une semaine ou 15 jours à peu près, on dormait sous la tente, dans la neige. Mais enfin voilà, c'est le cas de le dire que les sous-officiers m'avaient pris particulièrement en grippe et donc ils ont voulu me tester. Et tester mes capacités de réaction. Et donc, ils m'ont confié la mission, certes fictive, hein, mais ils m'ont confié la mission de garder un dépôt de munitions, quelque chose qui était censé être un dépôt de munitions. Donc, ils m'ont affublé de tout ce qu'il fallait, le casque, la mitraillette, machin. Bien entendu, balas blanc quand même, hein, heureusement. Et donc, leur mission, c'était justement de me tester, c'est-à-dire de me prendre en défaut. Ils ont essayé de me prendre en défaut. Donc, il était trois, je me souviens, à essayer de se faufiler au bout du champ, là, pour faire le tour du machin. Il se trouve qu'ils n'ont pas eu de bol, c'est que je les ai vus, quoi. Je les ai vus, ben, ce qui est quand même vraiment un coup de bol, quoi. Tu vois, ben, j'ai dû me tourner, puis j'ai dû voir quelque chose, etc. Puis, de fait, moi, j'ai pris peur, en fait. C'était pas du tout intentionnel de ma part. J'ai pris peur, et puis j'ai commencé à tirer dessus, quoi. Et alors, les mecs, ils sont arrivés tout de suite en disant, mais t'es con, c'est nous. C'est nous. Oui, mais ça, et comme si c'était des gamins qui jouaient à la guerre, quoi, tu vois. Alors, bien entendu, je me suis fait engueuler parce qu'en fait, j'aurais dû accomplir toute une procédure qui était halte au feu, machin, je me souviens plus exactement des termes. Enfin, j'aurais dû faire des sommations, j'aurais dû les prévenir que ceci, que cela, mais moi, je me suis un peu précipité dans la défense de la nation, j'ai commencé à tirer tout de suite, quoi, tu vois.
À cette époque-là, on était convoqués 3 jours et on était regroupés dans une caserne. On était testés et en fonction du résultat du test, on était dirigés soit vers la possibilité de faire une école d'officiers ou soit de rester troufion, quoi. Donc il y avait le test et après il y avait un truc médical, un examen médical où ils te prenaient la tension, ils te pesaient, enfin ils te regardaient, quoi. Et puis, au moment où je suis passé voir l'ophtalmologiste, qui était un appelé aussi, c'était pas un militaire de carrière, il m'a dit, bon, tes yeux, c'est pas terrible, est-ce que tu souhaites faire l'armée? Et je lui dis, bah non, ça tombe bien, je veux pas. Donc il a mis sur le papier exempté, ça veut pas dire réformé, exempté. C'est-à-dire que tu peux être appelé en cas de conflit. Il était myope, fortement myope, enfin, un aveugle surtout. Et puis après, comme j'avais pas trop mauvaise note au test, j'ai vu un colonel. Il m'a dit, il a essayé de me convaincre de faire l'armée quand même. Que comment dire, sacrifier un an de sa vie pour son pays, c'est pas grand chose. Que le pays a besoin de nous. Enfin, c'était des arguments assez convaincants.
Bon, après, on s'étonnera pas qu'on ait une vision assez négative du service. Toujours est-il que le SNU, pas mal de monde s'en inquiète, que ce soit du côté des parents ou des organisations de jeunesse comme l'UNL, l'Union Nationale Lycéenne. Son président, Louis Boyard, est venu nous voir et je lui ai demandé dans quelle mesure son syndicat avait été associé à la discussion sur la mise en place de ce SNU.
Bah, nous, on a rencontré Gabriel Attal, donc quand il est arrivé au secrétariat d'État à la jeunesse, on l'a rencontré, on a pu discuter de plein de choses, et il a commencé à nous parler du service national universel, et nous, on lui a déjà dit, on a une opposition de fond, presque philosophique, au service national universel, et il nous disait, mais vous pouvez quand même travailler sur tout ça, et puis nous, ce qu'on lui a répondu, c'est, bah, effectivement, sur certains points, on alertera, par exemple, on pense à la sécurité des élèves, par exemple, là, par exemple, les malaises, nous, on interviendra sur ce sujet-là. Mais on a dit il est hors de question qu'on contribue à la construction de ce service national universel, parce que nous, notre objectif, c'est de l'annuler. Nous, notre objectif, ça va être de poser un rapport de force pour faire en sorte qu'il recule sur cette mesure. Et on a re-rencontré donc, le cabinet de Gabriel Attal en décembre, parce qu'en décembre, l'UNL avait lancé un énorme mouvement lycéen pendant la période des Gilets jaunes. Et en gros, ce qu'on avait dit, c'est écoutez, nous, on arrêtera d'appeler au blocus si jamais vous reculez sur le service national universel et que vous proposez le droit de vote à 16 ans. Bref, on a fait le travail syndical, on a tenté de négocier des choses, ça n'a pas fonctionné, et pourtant, on continue, voilà. C'est ça nos liens aujourd'hui avec Gabriel Attal sur le service national universel.
Alors maintenant que les choses sont lancées et qu'on a vu concrètement à quoi ça allait ressembler ce service national, quels sont les objectifs de l'UNL? Vous avez commencé à le dire un petit peu, il va être, vous allez entamer une espèce de guerre de tranchées quelque part, pour faire reculer le gouvernement, mais avec quels moyens du coup?
On n'a pas beaucoup de moyens quand on est jeune pour pouvoir réussir à faire reculer un gouvernement, mais alors par contre, on a un moyen quand il fonctionne, qu'est-ce que ça fonctionne? Moi, les mouvements de jeunesse, à chaque fois qu'il y en a eu un qui a fonctionné, ça a fait démissionner un gouvernement, et ils en ont conscience. Et nous, notre objectif, ça va être de mobiliser les lycéennes et lycéens. On a un conseil national là dans quelques semaines pour pouvoir discuter de qu'est-ce qu'on va faire. On a plein d'idées de projets en tête. Après, on est très optimiste sur le fait que cette mesure n'est pas tenable. Elle n'est pas tenable dans l'opinion publique en général et elle est encore moins tenable auprès des jeunes. D'abord, on ne pense pas aujourd'hui attaquer directement avec un mouvement social dans la rue. On va avoir tous les arguments de notre côté et donc on veut utiliser des outils peut-être beaucoup plus démocratiques ou institutionnels. Et si jamais ils ne veulent pas jouer avec les outils institutionnels parce qu'on sait qu'on gagnera avec, là, on lancera un mouvement social.
Et est-ce qu'il y a sur la table, je vais pas vous demander de m'en dévoiler trop des idées proposées par l'UNL, mais est-ce que circule, revient l'idée d'une objection, d'une possibilité d'objection, ce qui était, on va dire, le la manière d'échapper à l'époque du service militaire classique tel que les générations précédentes l'ont connu, une manière de ne pas faire ce service militaire, c'était d'être objecteur de conscience. Est-ce que l'idée de recréer une forme d'objection circule ?
Nous, bien sûr, c'est ce qu'on porterait, parce que à la limite, si jamais il y a des jeunes qui sont volontaires pour pouvoir le faire, c'est leur choix et il n'y a pas de problème. Le service national universel peut exister si jamais c'est seulement des personnes qui souhaitent y aller. Seulement, si c'est que des personnes qui souhaitent y aller, vous n'aurez pas plus de 20 000 personnes par an. Donc, voilà. Nous, par contre, ce qu'on porte comme alternative, le SNU, ça va coûter 1,5 milliards par an, 1,3 milliard pour les infrastructures. C'est à peu près le chiffre qu'on a pour pouvoir avoir le budget qui est nécessaire aujourd'hui dans l'éducation, enfin dans le secondaire et même dans le supérieur. Donc nous, notre objectif, c'est de les faire reculer sur le SNU et que tout cet argent, on le mette pour ouvrir des places à l'université, qu'on n'ait plus les problèmes avec Parcoursup, mais aussi qu'on recrute des professeurs, qu'on rénove les établissements. Et pour nous, le SNU, c'est une perle parce que, en fait, c'est une masse d'argent dont on a besoin, qu'on peut obtenir en posant un rapport de force. Nous, l'objection qu'on a sur le SNU, c'est pas seulement parce qu'on met des jeunes à côté d'un drapeau pour les faire chanter ou qu'on le fait sous la contrainte. C'est parce que ce qui est dit à travers le SNU, c'est que ce n'est plus à l'école de s'occuper de la citoyenneté, c'est le SNU à travers l'armée, tout ça. Nous, l'école qu'on porte, c'est une école qui soit citoyenne. La citoyenneté, ça se fait pas en deux semaines, ça se fait en 18 ans. Et donc, nous, on veut que l'école soit un petit peu le pilier citoyen, et c'est ce qui a été abandonné, et c'est pour ça que nous, on veut que cet argent revienne dans les lycées, parce que si jamais on permet de faire 18 ans de citoyenneté, et ben la société s'en portera bien mieux que si jamais on fait deux semaine sous un drapeau. C'est aussi une objection de fond qu'on a à l'UNL contre le SNU.
L'objection, justement, puisqu'on en parle, l'idée tourne aussi du côté des parents, avec déjà l'évocation d'un droit familial à l'objection de conscience. C'est la journaliste Louise Touret, qui est spécialiste de l'éducation, qui sur Slate.fr a plaidé pour la mise en place de ce droit.
Je pense qu'il y a des enfants qui peuvent être contre et qu'on doit pouvoir aider, même si leurs parents sont pour. Il y a des parents qui peuvent être contre avec leurs enfants. Et dans ce cas-là, c'est une décision familiale, comme on en prend beaucoup quand on a des adolescents. Et puis, par exemple, moi, si mes enfants avaient envie de le faire, ben, je les en empêcherais pas. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on doit discuter. Ça fait partie de l'éducation, de toute façon, de discuter aussi des valeurs, des symboles et de la politique, parce que c'est très politique comme sujet. Donc, quand les enfants ont 15, 16 ans, en tant que parents, on est responsable d'eux. Et dans cette responsabilité, il y a aussi le fait d'avoir ou pas envie de les envoyer, et non seulement envie, mais penser ou pas que c'est éducatif et bien pour eux de le faire. Je rappelle que l'école en France n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui l'est. Comme je l'ai rappelé aussi dans le papier, le vote n'est pas obligatoire. Donc il y a plein de participation à la vie républicaine qu'en fait on n'est pas obligé d'accepter. Ça s'appelle la liberté de choix. Bon, on pourrait l'appliquer au SNU. Pourquoi ce serait la seule chose obligatoire en France, qui plus est pour des enfants? Alors, s'il y a deux, trois trucs obligatoires, c'est la vaccination. Mais ça, c'est pour des raisons de santé. Là, il y a vraiment un objectif qui est très politique et ne pas donner le choix. Quand on a un objectif politique et un discours sur les idées, c'est quand même super spécial, je trouve.
Est-ce que cette prise de position, ça a créé un début de discussion sur le net, notamment entre parents, potentiellement ? Et vous avez eu des réactions derrière le papier ?
Moi, on m'a demandé de lancer une pétition, bon, ouais. Ce que je n'ai pas fait. Hein, je reste journaliste. D'ailleurs, dans le papier, c'est aussi argumenté avec des faits. Je crois qu'on est un peu dans nos bulles de filtre, tous. Donc, ceux qui sont pour et qui sont peut-être majoritaires, je pense qu'ils le sont, ils trouvent ça bien, ils restent entre eux. Ceux qui sont contre, ils se parlent un peu entre eux. Donc, c'est vrai que si le débat n'est pas posé à un moment, si on ne demande pas aux parents de formuler leur avis, on saura, plus généralement, on ne saura pas. Moi, j'ai l'impression que parmi les gens de mon entourage, qui sont un peu comme moi, on a était beaucoup à être interloqué, mais ça veut rien dire. C'est encore la même bulle de filtre que j'ai sur les réseaux. Bon, j'ai eu beaucoup de retours très, très positifs sur le papier. Peut-être que je connais des gens qui n'aiment pas et qui ne m'ont pas dit.
Si l'on voit se réveiller les vieux spectres de l'objection de conscience, c'est bien parce que malgré ces dénégations, le gouvernement a ressuscité, au moins médiatiquement, l'idée du service militaire. Une vieille lune chez les politiques qui, depuis sa suspension il y a 20 ans, plaide régulièrement pour son retour. C'est souvent le cas de la droite, mais aussi parfois de la gauche. C'est les insoumis notamment qui sont favorables à un service citoyen obligatoire aux contours certes différents, mais à la même visée, recenser d'une part le niveau d'instruction d'une génération et surtout renforcer le sentiment d'appartenance à la nation. Alors pourquoi cette fascination l'assassination. J'ai posé la question à l'historienne Annie Crépin, spécialiste de la conscription.
Ah ben oui, c'est parce que ça a été un des piliers du modèle républicain et même avant du modèle français. Et c'est une... disons que c'est né de la conscription et la conscription est née de la Révolution française. Et donc l'idée que ça paraissait révolutionnaire il y a deux siècles, que quand on est citoyen, même si on n'est pas militaire de carrière, eh bien un des premiers devoirs ou un des premiers attributs du citoyen, c'est de défendre sa patrie.
Ce dont j'ai l'impression quand je lis les réactions des uns et des autres du côté du corps politique, c'est qu'on a aussi beaucoup le fantasme d'une institution qui permettait de faire corps, justement, de faire nation, de faire peuple. C'est-à-dire que ça permettait aux gens d'avoir un sentiment d'appartenance à la nation. Est-ce que c'est si vrai que ça ?
Alors, ça a été vrai, disons, ça a mis pratiquement un siècle. Hein, tout au long du 19e siècle, il y a eu des régimes très différents, hein, jusqu'à la Troisième République. Et pourtant, il n'y en a aucun qui a supprimé la conscription du temps de Napoléon. La conscription, à la fin de Napoléon, du régime de Napoléon, c'était devenu impopulaire dans certaines régions. Mais finalement... aucun régime ne l'a supprimé et bien sûr chaque régime a voulu la modeler hein, à sa façon parce qu'il y avait l'idée que c'était pas seulement pour avoir des effectifs hein, mais aussi parce que c'était un moyen de rattacher les gens à la citoyenneté et à l'État-nation. Hein. Ça a été vraiment un des instruments de l'acculturation à l'État-nation qui est un État-nation centralisateur.
Mais cette notion, elle a évolué au long du XXe siècle. Ça n'était plus si vrai, je pense, à la fin de ce qu'était le service militaire tel qu'on le connaissait il y a une vingtaine d'années.
Sous la Troisième République, bon, il ne faut pas fantasmer, mais c'est le moment où ça a été le plus égalitaire possible, où les gens étaient vraiment très mélangés. Et bon, entre les deux guerres, ça a continué, mais il y a déjà des fissures intellectuelles. Hein, il y a des gens qui remettent en question, par exemple le général de Gaulle, il ne dit pas « je veux revenir à une armée de métier », mais il dit « ça ne suffit plus dans l'armée, il faut qu'il y ait des corps vraiment de spécialistes, hein, pas seulement de soldats professionnels, mais de spécialistes, enfin il pensait aux chars ». Bon. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, alors effectivement, il y a tout un faisceau de raisons qui font que le service militaire décline parce qu'il correspond plus au but qu'on lui assignait. D'abord au point de vue militaire, parce que la Ve République fait le choix le général de Gaulle revenu au pouvoir, hein, fait le choix de la dissuasion et d'une armée de métiers, mais vraiment de spécialistes. Hein, donc on n'a plus besoin de ces gros bataillons, si j'ose dire, aux frontières. Bon, au point de vue politique, la guerre d'Algérie, c'est vraiment une crise de conscience où on s'est rendu compte que les devoirs du soldat, même du citoyen soldat, eh ben, ils pouvaient se heurter aux devoirs de la conscience personnelle. Hein. Et puis surtout, il y a une mise en cause sociétale parce que l'armée, le service militaire, c'était censé donc mélanger tout le monde, quelle que soit son origine. Or, ça n'a plus été le cas. Pour rendre plus attractif le service militaire, en 1965, on l'a transformé en service national, c'est-à-dire qu'il y avait différentes formes. Alors, on pouvait aller en caserne, mais on pouvait aller aussi dans ce qu'on appelait la coopération, c'est-à-dire qu'on était technicien ou ingénieur ou professeur dans les anciens pays colonisés qui avaient donc des rapports qu'on appelait de coopération. On pouvait aussi faire son service dans la gendarmerie ou dans la police, mais résultat, les gens, ils étaient plus ensemble, d'une part, et d'autre part, ça réintroduisait l'inégalité parce que c'est pas du tout les mêmes proportions dans toutes les classes sociales de gens qui allaient en coopération et puis d'autres qui allaient en caserne. Hein. Donc, toutes ces raisons sociales, sociétales, culturelles, politiques... stratégique même, enfin militaire au sens technique, eh ben on fait que le service militaire ne répondait plus ni à ses buts, j'allais dire militaires, hein, et ni à ses buts sociaux et de faire corps, comme vous dites, ou de faire une nation d'égaux, bah c'était plus ça.
Le corps politique, pour sa majorité, enfin pour sa grande majorité des élus et des personnes qui sont en responsabilité, sont des gens qui ont fait leur service, ont connu une époque où le service militaire existait, et sont
a priori très conscient de tout cela. Pourquoi donc en revenir toujours à cette idée que finalement c'était le moyen, le seul moyen de faire socle pour que le citoyen
se
sente
comme ça. Je ne pense pas qu'ils disent. Oui, bien sûr. Non, ils ne disent pas c'est le seul moyen de faire socle, quand même. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc en 97, paradoxalement, quand le service militaire a été supprimé, alors il a été supprimé de fait. Il y avait à gauche et à droite des gens qui disaient c'est regrettable, mais de toute façon, il faut le réformer. Hein, on peut plus le laisser tel quel. Donc là, il y a eu cette loi, il y a eu un consensus. Et comme toujours, quand quelque chose prend fin, à peine ça avait pris fin, qu'il y a une sorte de nostalgie. Alors, une nostalgie qui n'est pas pour l'aspect militaire, qui est pour la cohésion sociale que le service militaire a représenté, même si c'était devenu, je viens de le dire, un peu mythique.
Reste, derrière les questions liées à cette résurgence à minima d'un service national, de la place de l'armée dans notre société et de la vision qu'en ont celles et ceux qui choisissent, le mot est important, de s'engager. Ça tombe bien, on en parlera très bientôt dans un prochain épisode. Merci à Louis Boyard, Louise Touret, Annie Crépin et à nos chers papas évidemment pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.